Vous allez entendre un message de William Branham prêché le 13 mars 1960 à Phoenix, Arizona, USA. Ce message s'intitule « Écoutez-le ».
He had to find out whether this son was a true son or was he just simply a roustabout. And this son would never be heir if he wasn't qualified to take his father's place. But if he was qualified and took the father's place, then all that the father had was given to his son. That's where I think that many of us Pentecostal people have made a mistake. We think as soon as we become sons and daughters of God, that settles it. We just come into a place of crime. The Methodists said as soon as they shouted, that settled it. The Lutherans believed by faith on justification and thought it settled it. No matter what kind of a position God puts you in, you're still going on towards perfection and will never reach it until Jesus comes. Now in the Old Testament, God had His kingdom of the people ordered just like His own under the old laws. Now a father owned a piece of ground, had hard hands and all that over the ground. We notice in King James Version of John 14, we read there, it says, in my Father's house is many mansions. That sounds strange, doesn't it? Mansions in a house. I don't know where it's Moffat, one of them. I was reading it.
Pourriez-vous vous avancer, frère, afin que nous posions nos mains sur cet issue de prière? Je sais que nous avons toujours entendu les gens demander, avez-vous oint cet issue? Beaucoup de personnes les oignent étaient en ordre. Dieu bénisse cela. Mais si vous regardez dans les Écritures, vous verrez que Paul ne les a pas oints, mais qu'il les retira de son corps. Voyez-vous? Ainsi, nous allons maintenant prier sur eux, et que chacun de vous prie avec nous. Maintenant, inclinons nos têtes pour la prière. Précieux Seigneur, nous nous tenons ici ce soir, à l'ombre de ta miséricorde, te demandant, en tant qu'Église du Dieu vivant, de bénir ces précieux morceaux de tissu qui sont ici, ces mouchoirs et ces petits paquets. Et Père, que le Saint-Esprit, lorsqu'ils seront appliqués sur quelqu'un, vienne sur eux et les guérisse de toute infirmité. Nous posons nos mains par la foi. En tant que frères et sœurs croyants, nous faisons ceci par la foi, et nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Merci, frère. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais dire ceci. J'ai eu de nombreuses réunions à Phoenix qui ont rassemblé de plus grandes foules qu'aujourd'hui. Mais je n'ai jamais eu de séjour aussi agréable que celui-ci. Et la communion fraternelle a été l'une des plus bénies que j'ai jamais eues. Nous avons visité différentes églises. Nous sommes venus ici avec les assemblées de Dieu. Et c'est la première fois, d'après mon souvenir, qu'il m'a été possible de rencontrer Frère Shaw personnellement. Je ne le dis pas parce qu'il est ici, mais quand vous pouvez entendre d'autres prédicateurs de foi différente qui, non, de même foi, mais d'une dénomination différente, dire du bien de ce frère, ce sont des hommes bons, c'est vrai. D'autres hommes qui n'étaient probablement pas d'accord avec lui au sujet des doctrines de la Bible, sur une question mineure, me dire pourtant, Frère Branham, c'est un homme pieux. Ainsi, nous sommes reconnaissants pour la coopération des assemblées de Dieu, de toutes les assemblées à travers la ville. Que le Seigneur les bénisse richement. Pendant notre séjour, nous avons dû quitter les assemblées de Dieu pour venir ici, étant donné que c'est une réunion interdénominationnelle. J'ai découvert qu'il y avait différents groupes, et je suis content qu'il y ait différents groupes. Je suis content que Dieu nous fasse différents les uns des autres. Dieu est un Dieu de variété. Il y a de grandes montagnes et de petites montagnes. Il y a des déserts et des marécages. Il y a des fleurs blanches, des fleurs bleues et des fleurs rouges. Et il y a des hommes très petits, grands ou gros, des femmes petites, des femmes fortes, des femmes maigres. Oh, il y en a de toutes sortes. Il est un Dieu de variété. Certains sont rouquins, d'autres sont noiraux. Certains hommes ont les cheveux ondulés et d'autres n'en ont point du tout. Oh, il est un Dieu de variété. Voyez-vous, il fait les choses comme il les désire. C'est ainsi que je pense. Il fait des hommes blancs, des bruns, des noirs, des jaunes. Un Dieu de variété, voyez-vous. De même, il y a des différences dans les églises. Nous en avons une d'une sorte et l'autre d'une autre, mais nous pouvons être tous ensemble des êtres humains. Un noir peut donner de son sang à blanc, et vice-versa. L'Indien peut donner au blanc et le blanc à l'Indien, car Dieu a fait toutes les nations d'un même sang. Ainsi, il nous a créés pour être un peuple. Mais de même que le temple de Salomon fut taillé dans différentes parties du pays, il y avait là différentes sortes de pierres, mais quand ce fut le moment de les réunir, elles s'ajustèrent toutes parfaitement. Pas de coups de marteau, pas de scie, pendant les 40 ans de sa construction. Je crois que lorsque Dieu se préparera à enlever l'Église, nous ne discuterons plus pour savoir si nous sommes méthodistes, baptistes ou autres. Nous partirons simplement tous ensemble. Dimanche, il y a une semaine, j'ai une belle communion fraternelle chez Frère Fuller, au temple de la foi. Frère Fuller est un homme merveilleux. Il représente les églises interdénominationnelles, ce qu'on avait coutume d'appeler les églises indépendantes. Lui et frère Gruner sont des frères indépendants. C'est un groupe de merveilleux chrétiens et nous avons eu un accueil chaleureux. Aujourd'hui, j'étais chez frère Outlaw. C'est l'homme qui le premier subventionna mes réunions lorsque je suis venu à Phoenix, lui et frère Garcia pour les Mexicains. Frère Outlaw a le tabernacle du nom de Jésus. Nous avons vraiment passé un moment merveilleux là-bas ce matin. Le Saint-Esprit était présent et le cœur chanta. J'ai pris toute une série de leurs disques et je suis impatient d'arriver chez moi pour les écouter. Ils chantèrent le « En haut, en haut, en haut, en haut ». J'aime cela. J'ai un peu l'esprit méridional en moi. J'aime taper des mains, vous savez, pour sentir en quelque sorte ma religion. Ainsi, nous avons eu un moment merveilleux de communion là-bas, ce matin, avec notre frère Outlaw. Le Seigneur a répondu d'une façon merveilleuse. Ainsi, il représente l'Église pentecôtiste unitaire, et les autres représentent les indépendants. Les frères ici représentent les assemblées de Dieu, et nous sommes tous un en Jésus-Christ. Tous ont le Saint-Esprit. La prochaine fois que je reviendrai, j'essaierai d'aller dans les autres églises, celle où je ne suis pas allé. Cela pour que vous sachiez que nous vous aimons. Peu importe ce que vous croyez, c'est celui en qui vous croyez. C'est cela, celui en qui vous croyez. Nous croyons tous au Seigneur Jésus-Christ pour notre salut. Nous ne nous confions pas dans nos propres œuvres ou dans notre affiliation aux églises, mais nous nous confions en ce qu'il a fait pour nous lorsqu'il mourut au calvaire. Ce sont des gens vraiment gentils qui viennent aux réunions. Ces hommes, beaucoup d'entre eux, ont fermé leurs églises pendant ces réunions. Nous vous en remercions. Les hommes d'affaires chrétiens, un chapitre a été organisé pendant ce séjour-ci. J'aime ça. Je suis content que cela soit arrivé pendant que j'étais ici. Je suis pour les hommes d'affaires chrétiens aussi longtemps qu'ils continuent à avancer de cette manière pour aider l'Église. Pas pour prendre la place de l'Église, mais pour aider l'Église ainsi fraterniser avec les hommes d'affaires. Un homme d'affaires peut témoigner à d'autres hommes d'affaires. C'est du bois si c'est exécuté ainsi. Comme dans le passé, cela édifiera l'Église, la fera grandir. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qui édifie le royaume de Dieu. Je désire remercier chacun d'entre vous de votre bienveillante coopération en venant soir après soir. Cela fait environ 15 jours de réunion. Et lorsque mon jeune fils, Joseph, appris qu'en Indiana, il était tombé 45 cm de neige fraîche et que l'état d'urgence avait été décrété, que toutes les écoles avaient été fermées, il dit « Papa, pourquoi ne pouvons-nous pas rester 2 ou 3 jours pour aller à South Mountain chasser le monstre de Gila, qui est une sorte de gros lézard ?» C'est un garçon assez intelligent pour 4 ans. Je lui dis « Mon petit chou, j'aimerais bien, Mais tes sœurs doivent retourner à l'école et nous devons aller directement à Tulsa avec frère Robert et frère Osborne, ainsi qu'avec tous les frères du pays pour une entière coopération. C'est merveilleux de voir les gens se rassembler de cette manière. C'est ce que j'ai désiré voir, c'est que des frères puissent tendre la main par-dessus la barrière. C'est cela, soyez des frères. Nous ne sommes pas divisés, mais formons tous un seul corps. Nous, un dans l'espérance et la doctrine, un dans la charité, en vrais soldats chrétiens qui marchent de l'avant. Ce que nous attendons, c'est la venue du Seigneur Jésus. Maintenant, je désire tous vous remercier de... On vient de me dire à l'instant, frère David et mon secrétaire, frère Mercier, viennent de me dire que vous avez donné deux offrandes à mon attention dans cette réunion. Merci, mes chers amis. Cette offrande d'amour sera versée à la fondation du Branham Tabernacle et sera utilisée pour financer les réunions. Je reçois un salaire de $100 par semaine. Ainsi, cela ira pour le royaume de Dieu. Dans chacune de ces églises, dans l'église de frère Outlaw ce matin et dans l'église de frère Fuller dimanche passé, j'ai essayé de les empêcher de le faire. Mais au moment où je passais la porte, frère Fuller mit un chèque dans ma main. J'ai oublié de combien il était exactement, environ $100, je crois, comme offrant aux missionnaires. Et ce matin, l'église de frère Outlaw a donné $101,50 comme offrant aux missionnaires aussi. Elle est entre les mains du secrétaire qui la fera parvenir à la fondation, qui nous envoie outre-mer prêcher l'évangile. Je prie qu'un jour, au ciel, cela devienne du mortier pour votre demeure éternelle de l'autre côté. Nous vous remercions tous de votre bienveillante coopération et d'avoir acheté les bandes et les livres. Ils se financent presque à eux-mêmes. Quelquefois, nous devons laisser la campagne acquérir les livres parce que si quelqu'un n'a pas d'argent et qu'il désire le livre, il peut l'avoir de toute façon, gratuitement. C'est vrai. Ce n'est pas l'idée de « simplement afin que je puisse avoir de quoi les réimprimer ». Et les frères qui les vendent ont un très petit salaire. Ils travaillent à plein temps pour la fondation de l'Église et pour l'Église elle-même. Si vous désirez un reçu pour vos dons, nous avons maintenant un numéro à Washington, D.C. où vous pouvez obtenir officiellement une déduction de vos impôts. Merci de nouveau pour tout ce que vous avez fait et merci aux aimables personnes qui ont placé les gens et ont aidé dans les lignes de prière. Et par-dessus tout, nous remercions Dieu du fond de notre cœur, chacun d'entre nous, de sa présence dans chacune des églises et ici dans cet auditorium. Soir après soir, nous avons vu sa main puissante se tendre avec miséricorde pour guérir les malades et pour prouver que son apparition, sa deuxième venue, est proche. J'aimerais demander ce soir, alors que l'auditorium est presque comble, je pense cette arène, et j'aimerais vous demander à tous de prier pour moi. Peut-être que dans les prochains jours, ou dans une, deux, trois ou quatre, cinq semaines, frère Duplessis et moi-même irons tenir des réunions dans toute l'Europe. Peut-être qu'un peu plus tard, en été, nous irons en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ensuite, les hommes d'affaires chrétiens désirent m'avoir 30 jours à Cuba, où le gouvernement nous invite. Et aussi à Haïti, dans ces différents endroits, et ensuite où nous étions là-bas dans les Caraïbes, et à Porto Rico, où le même groupe qui subventionna Billy Graham eut une réunion avec moi pour l'île entière, formant ainsi un cercle de feu tout autour, un soir à tel endroit, et un autre soir à tel autre, finalement, nous sommes revenus au stade pour une grande réunion. Ils m'ont fait de nombreux éloges au sujet des réunions. Oh, la moisson est vraiment mûre, mais les ouvriers sont peu. Prions le Seigneur. Je désire remercier les familles qui m'ont reçu d'avoir été si gentilles, spécialement frère et sœur Charette et frère et sœur Williams et toutes les aimables communautés où qu'elles soient. Nous vous remercions vraiment de tout notre cœur. Je dis cela de la part de ma femme, de ma famille, de mon fils, de frère David Duplessis, de frère Roy Borders, de mes collaborateurs, frère Jean Gould et frère Léo Mercier, soit toute l'équipe. Frère Sossman, Fred Sossman du Canada, qui est aussi un des collaborateurs de l'Église en tant que l'un des administrateurs de la Fondation. Nous vous remercions tous du fond du cœur. Que Dieu soit avec vous et nous espérons être de nouveau au milieu de vous avant que Jésus vienne, si c'est possible. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse prospérer vos églises et que beaucoup d'âmes soient sauvées. Maintenant, inclinons nos têtes un moment pour la prière. Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier car c'est ta grâce qui a fait tout ceci pour nous. Nous avons fait cela, Seigneur, et nous sommes venus ici pour être en communion avec les églises, avec les frères, et afin de rencontrer de nouveau ces précieuses âmes. Nous nous sentons comme Paul le jour où ils le suivirent jusqu'au rivage et qu'ils se mirent à genoux et prièrent. Seigneur, ce même esprit vit dans des hommes et des femmes ici même à Phoenix. Et quand nous les voyons, et pouvons fraterniser de nouveau, parler de toi, de ta venue, prêcher la parole, voir que tes enfants malades reçoivent de l'aide, que les fidèles d'églises nouvellement construites augmentent en nombre, nous te sommes si reconnaissants, Seigneur. Cela est arrivé à cause de ta grâce surprenante. Nous te prions de bénir cette ville et tous ses prédicateurs, et puisse ces églises croître et prospérer en Jésus-Christ. Nous arrivons maintenant à la parole et au dernier mot de ce réveil. Père Céleste, nous voulons que tu aies le dernier mot. Nous voulons voir tes bénédictions et entendre ta voix nous parler de nouveau ce soir. Et alors que nous essayons de lire ta parole inspirée, sainte et sacrée, nous te prions afin que le Saint-Esprit prenne les paroles et qu'il les distribue et les fixe dans chacun des cœurs, comme il le désire, là où elles sont nécessaires. Puisse la semence tomber dans un terrain fertile et croître pour devenir de grands arbres de salut. Accorde-le, Seigneur. Bénis-nous et aide-nous au fur et à mesure que nous allons plus avant dans le service. Nous te le demandons au nom de ton cher et précieux enfant, le Seigneur Jésus. Amen. Ce soir, j'aimerais lire dans Matthieu, au chapitre 17, quelques versets. Pendant que vous cherchez ce passage, j'aimerais aussi dire à cet auditoire combien j'apprécie les encouragements que vous avez prodigués à mon associé, frère David Duplessis, pour le bien qu'on m'a dit de son enseignement. Je vous remercie tous de vos compliments. Je suis sûr que vous en retirerez du bien. Maintenant, au chapitre 17 de l'Évangile de Saint Matthieu, nous commencerons avec le verset premier. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Je désire prendre ces 2 derniers mots comme texte. Écoutez-le. Ce soir, j'ai de nouveau un très petit texte pour un tel auditoire. 2 mots. Mais si nous pouvons obéir à ces 2 mots ce soir, nous verrons la Pentecôte se répéter dans ce bâtiment. C'est petit, mais oh, il y a assez de puissance là-dedans pour que le reste de la Bible s'enchaîne avec cela. Écoutez-le. Parfois, ce n'est pas beaucoup de mots. Nous avons découvert des frères dans la foi, et j'en ai moi-même entendu dire, « Oh, frère Branham, je ne crois pas qu'il y ait une nécessité quelconque pour moi de continuer à avancer. Je suis allé écouter Billy Graham et oh, il y avait des milliers de personnes. Et je suis aussi allé écouter notre très noble frère Oral Roberts. Et il y avait là des milliers de personnes qui se pressaient sous la tente. Ainsi on dirait que peut-être mon petit auditoire ne veut pas beaucoup dire pour vous. Mais vous avez tort. Appréciez-vous votre doigt? Vous ne voudriez pas que votre doigt dise « parce que je ne suis pas un œil ou une oreille, je n'arriverai plus ». C'est si différent. Cela me rappelle une petite histoire qui arriva quand feu le roi Georges vint visiter le Canada avec sa chère épouse. Le roi souffrait à ce moment-là de sclérose en plaques, pour laquelle j'ai eu plus tard le privilège de prier. Je reçus une lettre de sa part. Et le jour où il dut traverser Vancouver en Colombie-Britannique, il descendit la rue dans son carrosse. Les professeurs fermèrent les écoles et tous se préparèrent pour fêter la visite du roi. Je me souviens que mon associé, frère Ern Baxter, me dit « Frère Branham, lorsque j'étais là-bas et que je vis le roi passer avec sa charmante épouse dans sa jolie robe bleue, je souris et pleurais en même temps. » Voyez-vous, cela voulait dire quelque chose pour lui. C'était le roi et la reine qui passaient. Et je pensais, si les Canadiens qui font partie de ces sujets étaient pareillement émus de voir passer le roi d'Angleterre, que sera-ce quand le roi de gloire passera? Tous les petits enfants avaient reçu un petit drapeau britannique et au passage du roi, ils devaient agiter ce petit drapeau et chanter « Dieu sauve le roi ». Et après le passage du roi, près d'un petit hôtel où le frère était descendu, les enfants devaient retourner à l'école. Dans une certaine école, tous rentrèrent, excepté une petite fille. La maîtresse était très inquiète à son sujet. Elle partit dans les rues à sa recherche. Elle la trouva debout, appuyée à un poteau de téléphone. Elle était appuyée contre ce poteau et elle pleurait à chaudes larmes. L'apercevant, elle courut vers la fillette qui était de petite taille et la prit dans ses bras. Elle sanglotait comme si son petit cœur allait se rompre. Elle dit « Pourquoi cries-tu, mon petit chou? N'as-tu pas vu le roi ?» Elle répondit « Oui, je l'ai vu. » « Eh bien, dit-elle, as-tu agité ton drapeau de fidélité quand il a passé ?» Elle répondit « Oui. » « Et tu l'as vu ?»« Oui, je l'ai vu. » Puis elle dit « Pourquoi pleures-tu ?» Elle répondit « Mademoiselle, j'ai vu le roi, mais je suis si petite que le roi ne m'a pas vue. » Ce n'est pas ainsi avec Jésus. Peu importe que vous fassiez peu de choses, il sait tout ce que vous faites. C'est enregistré dans le ciel sur votre compte. Autant que pour Billy Graham, Oral Roberts ou n'importe lequel de ceux qui ont de grandes réunions. Parfois, ce ne sont pas les grandes choses que nous faisons, mais les petites choses que nous négligeons de faire. Jésus ne fait pas exception de groupe. Jésus allait dans toutes sortes de groupes, de toute grandeur et de toute condition sociale. Une fois, il nous est rapporté qu'il était avec 500 personnes et parfois avec des milliers de gens. Une fois, nous le voyons avec 12 personnes et une autre fois avec 3 ou même une personne. Peu importe l'importance du groupe, le principal, c'est que Jésus soit là quand ce groupe se réunit.
Amen.
Peu importe que votre église soit petite ou qu'elle soit grande, et à combien de personnes vous prêchez, la question est, vous êtes-vous livré à Dieu à tel point que Jésus se manifeste au milieu de vous? Cela a dû être un événement spécial, un grand événement. Pierre l'appela plus tard la montagne sainte. Je ne crois pas que Pierre voulut dire que la montagne était sainte. Je crois que Pierre voulut dire que le Dieu saint les rencontra sur la montagne. Ce n'est pas la Sainte Église, ce n'est pas le peuple saint, c'est le Saint-Esprit dans les gens qui ont fait quelque chose. Pas l'Église, ni les gens, mais le Saint-Esprit. Quand Dieu s'apprête à faire quelque chose d'important, il le déclare généralement dans les cieux d'abord. Et ceci dut être un événement spécial. Ils allèrent à ce que nous appelons la montagne de la Transfiguration. Il avait dit quelques jours auparavant, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, ne mourront point qu'ils aient vu le Fils, le royaume de Dieu, venir avec puissance. » Je crois qu'à peu près tous les prédicateurs, ou beaucoup d'entre eux, savent que cette disposition représente l'ordre de la venue de Christ. Premièrement, ils virent quel était l'ordre. Ils virent Jésus qui devait apparaître. Et ensuite, ils virent la venue de la glorification. Et Moïse et Élie, l'ordre exact de la seconde venue. Puis, lorsqu'ils regardèrent de nouveau, ils ne virent que Jésus seul. Maintenant, nous voyons qu'il les a pris là-haut dans un but précis, et qu'il en a pris 3. Dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, 3 est une confirmation, que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit établie. C'est dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et nous remarquons que Jésus avait avec lui Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins terrestres pour rendre témoignage. Et Dieu avait sur la montagne Moïse, Élie et Jésus pour un témoignage céleste. Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand. La chose, je pense, que Dieu faisait ici, une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que je crois que Dieu essayait de placer ou de se conformer à ses propres lois. Dieu doit se conformer à ses propres lois. Il doit vivre dans le cadre de ses propres lois. C'est la raison pour laquelle je crois que Jésus était plus qu'un prophète. Jésus était Dieu fait chair.
Amen.
Dieu n'aurait pas pu envoyer quelqu'un d'autre, né d'un homme ou d'une femme, pour prendre la place et pour engloutir la mort. Parce que Dieu devait subir sa propre peine. Dieu doit se conformer à ses propres lois. Il doit vivre dans le cadre de ses propres lois. C'est la raison pour laquelle je crois que Jésus était plus qu'un prophète. Jésus était Dieu fait chair.
Amen.
Dieu n'aurait pas pu envoyer quelqu'un d'autre, né d'un homme ou d'une femme, pour prendre la place et pour engloutir la mort. Parce que Dieu devait subir sa propre peine. Dieu ne pouvait pas mourir en esprit. C'est pourquoi il devint chair et habita parmi nous, afin de prendre sur lui la mort, et notre condamnation fut placée sur son précieux corps. Il mourut pour nous tous, là dans ce précieux corps qui est assis à la droite de sa majesté ce soir. Dieu ne peut plus regarder la maladie, elle est condamnée. Il ne peut plus regarder le péché, il est condamné. Il y a là le rachat. Le corps frappé et brisé du Seigneur Jésus, qui est assis à sa droite dans le ciel. C'est ce qui nous fait avoir la foi. Parce qu'il est assis là-bas pour intercéder sur la base de nos confessions. Dieu faisait ici ce que nous appelons dans la Bible le placement d'un fils. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un enfant, un fils, naissait dans une famille, ce fils était un fils dès sa naissance, bien sûr. Il était le fils de son père. Mais cependant, avant d'hériter du royaume de son père ou de sa possession, ce fils devait d'abord être élevé et éprouvé. Le père devait déceler si ce fils était un véritable fils ou si ce n'était simplement qu'un vagabond. Et ce fils ne serait jamais devenu un héritier s'il n'était pas qualifié pour prendre la place de son père. Mais s'il était qualifié et qu'il prenne la place de son père, alors tout ce que le père avait revenait à son fils. C'est là où je pense que beaucoup d'entre nous, pentecôtistes, avons commis une faute. Nous pensons qu'aussitôt que nous devenons des fils et des filles de Dieu, tout est réglé. Mais nous nous sommes arrivés qu'au point où nous pouvons être éprouvés. Les méthodistes disent qu'aussitôt qu'il crie, c'est en ordre. Les luthériens croient à la justification par la foi et pensent que c'est ainsi réglé. Peu importe la position dans laquelle Dieu vous met, vous grandissez toujours. Vous continuerez vers la perfection et vous ne l'atteindrez pas avant que Jésus vienne. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi son royaume dans le même ordre que le sien sous les anciennes lois. Le Père possédait un domaine et il embauchait des ouvriers qui travaillaient sur toute l'étendue du terrain. Nous remarquons dans la version du roi Jacques que dans Jean 14, il est dit « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. » Cela paraît étrange, n'est-ce pas? Des demeures dans une maison. Je ne sais pas si c'est Moffa ou un autre, mais j'ai lu que le traducteur tourna cela encore plus en dérision. Il dit, dans le bâtiment locatif de mon père, il y a beaucoup d'appartements. Comme si nous allions là-bas pour louer des appartements. Non, c'est tout faux. On m'a dit que lorsqu'on fit la traduction dite du roi Jacques, on la fit dans le langage de l'époque. En Angleterre, effectivement, le roi était le père et tout son domaine était sa maison. C'est parfaitement conforme à l'Ancien Testament. Là, le Père avait son domaine et il dominait sur ce domaine. Dès qu'un enfant naissait, le Père, tellement occupé par d'autres charges, cherchait un tuteur ou quelqu'un pour élever son enfant. Et ainsi, sachant que cet enfant était dans la ligne d'héritage de tout ce qu'il avait, propriété, renom, et que tout ce qu'il avait irait à ce fils, il cherchait le meilleur précepteur possible pour s'occuper de cet enfant. Et Dieu fait la même chose avec ses enfants. Quand un homme naît dans le corps du Seigneur Jésus, et devient fils de Dieu. Dieu a cherché dans les cieux le meilleur tuteur qu'il connaisse pour éduquer ses enfants. Ce n'est pas un évêque, mais c'est le Saint-Esprit que Dieu a mis au-dessus de son Église pour enseigner son Église à croire les choses spirituelles et les choses surnaturelles de Dieu. Il ne mettrait pas au-dessus de son Église un évêque qui ne croit pas qui pense que le temps des miracles est passé et que tout le surnaturel est fini. Dieu ne ferait pas cela. Et le Saint-Esprit fut envoyé pour gouverner et guider l'Église. Dieu donna cette tâche au Saint-Esprit. Le Père n'aurait pas choisi un homme qui aurait essayé d'obtenir une cocarde, comme on dit. Alors que le Fils est un renégat comme le Père penserait, il sait que je suis le Père. Alors il viendra pour être complimenté, disant, « Oh, votre fils va très bien !» Non, il ne ferait pas cela. Il choisirait un homme qui allait lui dire la vérité, car il voulait connaître exactement le développement de ce garçon en tout temps. C'est ce que Dieu fit. Il ne fit jamais confiance à un pape, à un évêque ou autre. Il envoya le Saint-Esprit sur l'Église pour l'enseigner et l'élever.
Amen.
C'est pourquoi le Saint-Esprit sera honnête avec Dieu. Ainsi, cet éducateur, ce tuteur, était censé venir faire rapport au Père sur les progrès de l'enfant. Et combien ce tuteur devait rougir si l'enfant se conduisait mal, lorsqu'il devait dire que le petit garçon ne s'intéressait pas aux choses ayant trait à la ferme ou au royaume de son Père. Comment le Saint-Esprit doit-il se sentir aujourd'hui lorsqu'il va devant Dieu, baissant la tête de honte, en faisant rapport sur notre indifférence dans l'Église aujourd'hui? Et lui dire que nous avons mis de côté le baptême de l'Esprit, que les Églises ont l'apparence de la piété, mais qu'elles renient ce qui en fait la force. Comme il doit rougir en disant « Tes filles sont habillées d'une façon immorale », comme il doit rougir en disant « Tes enfants ne peuvent même pas s'accorder les uns avec les autres, assez longtemps pour avoir une réunion ». Lui dire qu'il se moque de ton peuple qui a été appelé et qui est rempli de l'Esprit. Comment le Saint-Esprit doit-il se sentir lorsqu'il se présente devant Dieu avec de tels messages? Lorsqu'il revient, qu'il doit dire qu'ils ont l'apparence de la piété, qu'ils ne croient plus au surnaturel, qu'ils ne vont même pas à l'église le mercredi soir, qu'ils restent à la maison pour regarder leur programme favori à la télévision. Quelle situation cela doit être? Et quand a-t-on donc que tu as envoyé dans ton église pour confirmer ta parole promise? Les gens s'en vont et l'appellent les œuvres du diable. Souvenez-vous que le Saint-Esprit doit rapporter à Dieu tout ce que dit chaque chrétien professant. Parce qu'il est envoyé, peut-être que le Père dit, « As-tu essayé? As-tu frappé à la porte de leur cœur? Oui, j'ai frappé soir après soir, mais ils ne veulent pas écouter. » Que doit-il éprouver? Comment peut-il avoir confiance en nous, comme il le fit pour Adam et Ève? Il est mis dans le jardin d'Éden, croyant qu'il se conduirait bien, qu'ils obéiraient à sa parole, et pourtant ils tombèrent. Et dès qu'un homme tient quelque chose dans ses mains, il tombe chaque fois. Il ne peut pas le tenir lui-même. Il faut que ce soit Dieu qui nous tienne. Ensuite, nous remarquons de nouveau que qu'arrivait-il si ce fils était un bon garçon? Oh, le maître bonbon le torse s'avançait vers le père, et lui disait, « Je suis si content, monsieur, de vous faire rapport sur les progrès de votre fils. Il est intelligent comme tout. Il est tout à fait comme vous. C'est bien le fils de son père. Il est exactement comme vous. Il aime les choses, les mêmes choses que vous. Il fait le travail exactement comme vous le faisiez lorsque vous étiez là-bas. C'est au sujet de cette sorte d'église que le Saint-Esprit aime témoigner devant Dieu. Jésus a dit, « Le genre d'œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » C'est au sujet de ce genre d'église que le Saint-Esprit aime témoigner devant Dieu. Et alors, si cet enfant, ce fils, n'obéissait pas et qu'il était un enfant désobéissant, il n'était jamais plus qu'un fils. Il restait un fils. Mais cependant, il n'avait pas d'héritage. Maintenant, nous ne voulons pas en rester là. L'Église devrait être 1000 kilomètres plus loin sur la route qu'elle ne l'est ce soir. Les bénédictions de la Pentecôte sont répandues sur les gens depuis 50 ans. Et nous régressons au lieu de progresser. Pourquoi prêchez-vous comme ceci, frère Branham? Je veux voir l'Église de Dieu dans une profonde sincérité. Je veux voir les réunions de prière à l'ancienne mode. Je veux voir ces époques où ils ne pouvaient pas quitter l'Église. Ils restaient toute la nuit. Ils priaient, jeûnaient, criaient jusqu'à ce que Dieu réponde. Au lieu de cela, il semble que l'amour se soit éloigné de nous. L'amour de Dieu, cet amour, comme chrétiens, nous pouvions difficilement attendre le moment où la cloche sonnait. Nous prenions les premières places et nous étions prêts avec un recueil de chants dans les mains. Mais maintenant nous disons, oh, je ne sais pas. Oh, béni soit le lien qui joint nos cœurs par un amour chrétien. La communion de même pensée est pareille à celle d'en haut. Lorsque nous nous séparons, cela nous donne une souffrance intérieure. Mais nous serons toujours unis par le cœur et nous espérons nous rencontrer de nouveau. C'est ainsi qu'est le véritable christianisme. C'est une expérience vivante. La Pentecôte n'est pas une dénomination. La Pentecôte est une expérience que chacun peut avoir sur le désir. C'est quelque chose que vous expérimentez, le Saint-Esprit. Si ce garçon grandissait ainsi, et qu'il ne devenait pas obéissant, qu'il n'agissait pas comme son père, s'il n'essayait pas de diriger l'affaire de son père de la même manière que lui, alors cet enfant perdait tout son héritage. Un autre frère devait prendre sa place. Aujourd'hui, si nous essayons d'apporter l'Église devant Dieu sous l'influence d'un credo ordinaire ou de la théologie, ce n'est pas ainsi que Dieu apporta l'Église devant le Père. Dieu veut que l'Église soit remplie du Saint-Esprit et qu'elle fasse les mêmes œuvres que lui faisait lorsqu'il était ici sur la terre. C'est le genre d'Église que le Maître, le Saint-Esprit, désire présenter à Dieu. Je vous ai dit une fois ici, au sujet d'un contrat dans l'Ancien Testament, qu'après l'avoir rédigé, il le déchirait. Mais quand il réunissait les différentes parties, elles devaient correspondre parfaitement. Chaque morceau de papier devait s'ajuster exactement, et tout le programme s'alignait parfaitement. Dieu confirma son alliance avec son peuple au travers d'Isaac, du Christ, et au calvaire il déchira le Messie. Il prit le corps et le plaça à sa droite et envoya l'Esprit ici sur l'Église. Et l'Église devrait avoir le même esprit et faire les mêmes choses que Jésus, sinon on ne participera jamais à l'enlèvement. Correspondre. Prenez ce morceau de papier-ci et déchirez-le. Maintenant, vous ne pourriez l'imiter si vous étiez appelé à le faire. Il faut utiliser de nouveau le même morceau de papier si l'on veut que ces lettres correspondent comme avant. C'est exactement ainsi que l'Église doit être. Jésus s'occupait toujours des affaires de son Père et il faisait ce qui était juste à ses yeux. Pas simplement faire ceci et cela, ce que l'Église commence à faire, mais c'est s'occuper des affaires du Père. Et Jésus avait ce témoignage, je fais toujours ce qui est agréable au Père. Prenons comme type Enoch avant son enlèvement. Enoch marcha avec Dieu 500 ans. Elle reçut le témoignage qui était agréable à Dieu. Il était un type de l'Église enlevée. Oh, nous sommes. Ensuite, cet enfant, Dieu a dû élever un autre enfant. Et s'il a Pentecôte, abandonne Dieu, Dieu peut de ses pierres-ci susciter des enfants Abraham. Dieu a appelé des luthériens, des baptistes, des presbytériens. Dieu peut de ses pierres-ci susciter des enfants à Abraham. Quelqu'un en aura la vision et continuera. Je n'ai pas l'intention de vous casser les oreilles ou d'effrayer les bébés. J'ai simplement beaucoup de vapeur et je dois la faire sortir quelque part, car elle s'accumule. Je me sens bien, je me sens religieux, parce que je sais que le Saint-Esprit lui-même, qui écrivait la parole, est ici qui la confirme, mot après mot, lettre après lettre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon, car c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, le sabbat. Ils n'ont pas voulu écouter tout ceci, car la parole vient lettre par lettre, règle sur règle. Alors, si cet enfant n'obéissait pas, et ne s'occupait pas des affaires de son père, Dieu suscitait un autre fils, et c'est ce qu'il a fait au travers des âges. Suscitant un Luther, suscitant un méthodiste, suscitant un nazaréen, suscitant un pèlerin de la sainteté, suscitant une Pentecôte, il continuera à en susciter, et en susciter, et en susciter, jusqu'à ce qu'il y en ait un. Alléluia! Oh Dieu, j'espère vivre pour voir cette Église lorsqu'elle se lèvera dans la puissance et dans la beauté de la résurrection avec la puissance de Dieu agissant au travers d'elle avec des signes et des miracles, accompagnant les croyants comme ce fut le cas dans le Nouveau Testament.
Amen.
Dieu dans sa puissance et dans sa force, oh combien c'est merveilleux. Alors si cette Église avait bien obéi, combien le tuteur aimerait aller vers le Père et dire « Oh, il est merveilleux. Le travail est fait exactement comme tu le faisais. » Voyez-vous ce que je veux dire? Ton fils là-bas, Père, exécute ton travail, tes instructions à la lettre, comme tu le faisais. C'est le genre de « c'en est un ». Alors le Père peut dire « Je suis vraiment fier de ce fils. Savez-vous ce qui arrive ?» Lorsqu'il reçoit son éducation, sa formation, pourtant, il ne peut pas exercer toute l'autorité. Il ne l'a pas encore fait. Il est toujours un fils, mais il n'a pas été placé. Maintenant, vous, prédicateur, savez où j'en viens? Au placement d'un fils. Maintenant, si ce fils s'est avéré être le genre de fils souhaité, qu'il aime les affaires de son père et garde exactement ses instructions, alors le père, un certain jour, conduit ce fils devant le public, le fait asseoir sur une place élevée, le pare d'un habit somptueux. Il y avait ce qu'on appelle l'adoption d'un fils, ou le placement d'un fils, montrant la position qu'il avait. Il y avait une cérémonie, et ensuite, le père disait, « Celui-ci est mon fils, je l'adopte, ou bien je le place dans sa position. » Et s'ils avaient eu des chèques en ce temps-là, le nom de ce fils sur les chèques aurait été aussi valable que celui du père, parce qu'il était placé. Et le fils pouvait renvoyer qui il voulait, et il pouvait engager qui il voulait. Il possédait tout ce que le père avait. Maintenant, voyez-vous, Jésus avait prouvé à Dieu qu'il était le genre de fils parfait. Et Dieu l'emmena au sommet de la montagne. Il amena là aussi des témoins célestes et des témoins terrestres, et il leur revêtit d'immortalité. Lorsqu'ils levèrent les yeux, ils dirent que son vêtement brillait comme le soleil. Quelque chose de surnaturel s'était passé. Ses vêtements resplendissaient comme le soleil au milieu du jour. Ils étaient d'une grande blancheur. Dieu plaça sur lui la robe de l'immortalité, montrant qu'il l'avait reçu. C'est la chose que Dieu fera un jour à ses fils, ici sur la terre. Il vous appellera à l'écart si seulement vous lui obéissez, que vous vous appuyez sur sa parole et la croyez. Il placera dans l'Église, avant la venue de Jésus-Christ, toute la puissance que Christ avait en lui. Tout ce que Dieu était, il le déversa dans Jésus. Tout ce que Jésus était, il le déversa dans l'Église. Dieu, voulant que son travail se fasse, l'envoya dans son Fils. Le Fils, voulant que le travail se fasse, l'envoya dans l'Église.
Amen.
En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. En ce jour-là, parce que la même puissance de Dieu qui est en Jéhovah, Dieu reposa en Jésus-Christ. La même puissance qui repose en Jésus-Christ repose dans les fils placés dans le corps de Christ. Le placement d'un fils. Il l'emmène dans un certain endroit. Fait une cérémonie devant les anges et le place dans la position qu'il a dans le corps de Christ. Alors, cette personne a l'autorité. Laissez-moi dire ceci. Même si vous me considérez comme un fanatique depuis ce soir, la chose même dont je parle arrivera. Une puissance viendra dans l'Église. Elle y entre maintenant. Et le Saint-Esprit oindra les gens à tel point qu'ils prononceront la parole et la chose sera créée.
Amen.
Nous n'avons pas vu la puissance. Cela vient maintenant dans l'Église. Je le sais en tant que fait. Si vous dites à cette montagne, ô toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir.
Amen. Amen.
Le placement de l'Église dans sa position permettra à la plénitude de la puissance du Saint-Esprit de venir dans l'Église. Alors, la bouche des critiques sera fermée. Ce temps sera court. Jésus descendit de la montagne et alla directement au calvaire. Notez ceci, cela ne durera pas longtemps, mais cela arrivera. Maintenant que le surnaturel se produit, lors de leur dédicace, que le surnaturel se produit, cela excite les gens, cela les rend tout excités, et cela leur tourne la tête. Quand Moïse accomplit le surnaturel en Égypte, une foule mélangée alla avec lui, et cela provoqua des difficultés dans le camp. Vous savez cela, tous les lecteurs de la Bible sont au courant de cela. Cela attira une foule mélangée, les croyants mélangés avec les incroyants. Cela causa plus tard le trouble dans le camp. Lorsque le surnaturel se produit, cela rend les gens excités, et ils partent dans l'erreur. C'est la même chose qui est arrivée chez les pentecôtistes. Le surnaturel se produisit, Dieu déversa premièrement les dons du Saint-Esprit pour permettre aux gens de parler en langue, et ensuite, ils eurent beaucoup d'imitations, de comparaisons charnelles. Ils se mettent à répéter un mot de nombreuses fois jusqu'à ce qu'ils reçoivent une espèce de langue dans laquelle parler. Ou lorsque le surnaturel, d'une façon ou d'une autre, commence à se produire, alors quelqu'un essaie de l'imiter. Vous savez que Dieu n'a jamais fait deux hommes pareils. Il n'y a pas deux personnes dans le monde entier à avoir la même empreinte digitale. Dieu fait les hommes différents et l'envoie dans son Église une diversité de dons. Mais nous nous cramponnons à l'un d'eux et vous partez avec cela. Vous ne prenez pas la sagesse de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas nous placer dans la position que nous devrions avoir dans son corps. Là où celui-ci est donné tel don à un autre tel autre, à un troisième un autre don différent encore, mais tous formant le même corps. Nous voulons être exactement comme cette autre personne. Vous ne pouvez pas agir ainsi. Vous devez utiliser la sagesse de la parole. La Bible est notre plan. Ainsi, quand ce fils était placé, Dieu plaça son fils d'après la même loi qu'il avait ordonnée pour son peuple. Maintenant, s'il avait prescrit que la désobéissance produirait la mort, alors Dieu descendit, devint chair, prit la désobéissance sur lui-même, et mourut pour la race humaine sur laquelle il avait placé la mort. Car ils avaient amené la mort sur eux, et il prit la mort à leur place, afin de pouvoir les racheter. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des ordres concernant le placement d'un fils. Quand il descendit, il plaça son propre fils, selon les mêmes lois. Pendant qu'il montait sur la montagne, tout à coup, l'ange du Seigneur vint dans la puissance du Seigneur, les couvrit de son ombre. Ses vêtements commencèrent à resplendir comme le soleil. Elles virent Moïse et Élie apparaître et lui parler. Une voix se fit entendre du ciel disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Toute la puissance dans les cieux et sur la terre lui fut donnée. Il avait été obéissant. Il était alors le fils de Dieu, Dieu plaçant son propre fils. Écoutez. Écoutez-le. Maintenant, qu'arriva-t-il alors? Aussitôt que le surnaturel se produisit, Pierre devint tout excité. Il dit, laissez-moi vous dire ce que nous allons faire. Construisons ici trois tabernacles. Faisons trois dénominations différentes, trois tabernacles différents. Nous en donnerons un pour ceux qui veulent garder la loi de Moïse. Nous les laisserons adorer dans ce tabernacle. Un autre veut garder les paroles des prophètes. Nous les laisserons adorer dans ce tabernacle. Et ceux qui désirent croire dans les paroles que Jésus a prononcées, nous les garderons dans ce tabernacle. Je suis si content que Dieu ait arrêté cela. Que se passerait-il si nous gardions la loi? La loi, la justice, sans miséricorde. Vous ne pouvez pas être sauvés par la loi. La loi ne renferme pas de salut. La loi vous condamne seulement. Elle vous dit que vous êtes un pécheur et que vous êtes coupable, mais elle n'a pas de miséricorde. C'est un agent de police. Elle vous jette en prison sans qu'il y ait moyen d'en sortir. Je suis content que nous n'ayons pas à écouter Moïse, car il apporta la loi. Et le prophète était la justice. Je ne veux pas la justice de Dieu. Non, je veux sa miséricorde, pas la justice. Si j'avais la justice, je serais condamné. Je veux la miséricorde. Je n'invoque pas sa justice. J'invoque sa miséricorde. Moïse et Élie, celui qui fut envoyé comme prophète, alla sur la montagne et s'assit. Personne ne devait l'approcher, Et contre quoi on envoya 50, il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe et les consume. La justice, je ne veux pas cela. Mais avant que Pierre eût terminé de parler de ces trois différents tabernacles, une voix se fit entendre de la gloire et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Moïse n'est plus, la loi n'est plus, les prophètes ne sont plus, mais voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Peu importe qui vous êtes, écoutez-le. Peu importe ce que quiconque dit, peu importe ce que maman dit, ce que papa dit, ce que la loi dit, ce que quiconque dit, écoutez-le.
Amen.
Il est le Dieu éternel. Dieu le plaça comme votre médiateur, votre Père, votre Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Mes amis, les gens de ce pays et de ce monde, alors qu'en voyageant je fais le tour, je découvre qu'ils ont si faim d'un réel et authentique christianisme. Nous avons eu tellement de maquillage, tellement de simulation, tellement d'imitation, que le monde a vraiment faim de voir quelque chose de réel. Quel coup, l'autre jour, quand M. Graham laissa venir ses païens et qu'ils le défièrent quant à l'évangile qu'il prêchait. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je crois que j'aurais été comme les enfants hébreux. Notre Dieu peut nous délivrer de cette chose. Je ne laisserai jamais l'évangile être foulé aux pieds. Mais c'en arrive au point, mes amis, où le monde est si épouvantable qu'il vous demandera la preuve de chaque centimètre de terrain sur lequel vous vous tenez. Satan va faire cela. Le temps viendra où les imitations et les pensées charnelles seront circoncises du réel et véritable corps de Christ. Il aura un corps pur, saint et rempli de son esprit, qui marchera dans l'esprit et qui fera les œuvres qu'il a faites. Soyez fidèles à cela. Ils veulent quelque chose de réel. Ils ont faim et soif de trouver la chose véritable. Ils ne veulent pas de la psychologie, ils ne veulent pas un discours intellectuel. Ils veulent quelque chose qui leur donne de l'assurance, quelque chose qui fasse revivre cette Bible. Quand je suis descendu de l'avion à Bombay, en Inde, où nous avons eu le plus grand rassemblement, estimé à 500 000 personnes, la première personne que je rencontrais au Jay Hotel, où peut-être 400 missionnaires ou plus étaient réunis, ce fut un évêque de l'église méthodiste là-bas. Il me dit, « Frère Branham, je ne suis peut-être pas d'accord avec vous sur votre doctrine de la guérison divine, mais vous êtes célèbre, et je désire que vous gardiez cela intact, car c'est quelque chose de valable pour les gens. Mais ne vous appelez jamais un missionnaire ici, car nous avions la Bible 2000 ans avant que vous soyez une nation. » Et c'est vrai. Saint Thomas alla là-bas et apporta l'évangile en Inde. Mais que firent-ils? Ils le changèrent en une théologie intellectuelle et les demeurait ainsi. Il dit, nous avons entendu ici, en Inde, que Dieu vous a donné un don pour faire revivre cette Bible. C'est cela qui nous intéresse.
Amen.
Faites que la Bible vive de nouveau.
Amen.
C'est ce que veulent les âmes au cœur affamé. C'est de voir la Bible redevenir réelle, voir Dieu venir sur la scène et agir comme il le faisait. La parole vivante devient une chose vivante pour nous qui avons soif de choses réelles. Il y a trop d'imitations. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette petite histoire. Vous pouvez quand même l'écouter à nouveau. Chacun sait que je chasse. J'aime chasser. C'est en moi, je n'y peux rien. Un jour que je chassais dans les bois du Nord avec un homme qui était un bon chasseur, très habile à suivre une piste et un tireur hors ligne. C'était un homme que vous n'avez pas besoin de rechercher tout le temps. Il savait où il se trouvait dans les bois et j'avais du plaisir à chasser avec lui. Nous nous séparions et je lui disais, je vous rencontrerai à 30 km de là, à tel endroit. Il y était exactement et ainsi, vous n'aviez jamais à vous inquiéter qu'il soit désorienté ou perdu. Il est en partie indien lui-même et il connaît les bois. Ainsi, un jour, je suis allé chasser avec lui Mais c'était l'homme le plus mesquin que j'ai jamais rencontré de ma vie. Il était cruel. Il aimait tirer de petits fonds des bébés cerfs pour m'émouvoir parce que j'étais un prédicateur. Elle se moquait de moi et me disait, « Oh, vous n'êtes qu'une poule mouillée. C'est là qu'est le problème avec vous, prédicateurs. Vous êtes tous des poules mouillées. » Je lui dis, « Bert, ce n'est pas cela. » Il dit, « Je pensais que vous étiez un chasseur. » Je lui répondis, « Je suis un chasseur, mais pas un assassin. Je ne crois pas. Je crois que c'est un meurtre de faire cela par mesquinerie. Je ne crois pas qu'il soit juste de tuer des animaux comme cela, en les prenant simplement comme cible. Si quelqu'un est un meurtrier, c'est bien l'homme blanc. Emmenez-le une fois en Afrique et observez-le. Il tuera aussi longtemps qu'il peut tirer à abattre quelque chose. C'est vrai, il est simplement, c'est sa nature d'agir ainsi. Vous, pauvre Indien qui êtes ici, regardez comme il tua les buffles et les cerfs, et ramassa les os et d'autres choses, les utilisant comme cible. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient une mauvaise opinion de nous. Dieu leur donna cet héritage. Nous les avons utilisés comme cible. C'est une honte, une disgrâce, une tache sur le drapeau. Mais simplement pour être un assassin, et c'est ce que Burt était. Il était un assassin, il tuait pour s'amuser. Il en tuait 4 ou 5 d'un jour simplement pour s'amuser. Une année que j'étais allé là-bas, il s'était fait un petit sifflet qui sonnait comme un petit bébé fond qui appelle sa maman. Il me le montra et je dis, « Burt, vous n'allez pas l'utiliser. » « Oh, dit-il, revenez à vous-même, prédicateur. Vous avez un cœur trop tendre. » Je lui dis, « Burt, que feriez-vous ? » ?»« Oh, dit-il, suivez-moi et vous verrez. » Nous sommes allés chasser là-bas d'environ 15 cm de neige. C'était un temps idéal pour suivre la trace. Mais les cerfs, après qu'on leur ait tiré dessus quelques fois, deviennent très sauvages dans cette région. Sur la queue blanche se cachent. Si bien que vous ne pouvez pas les voir et ils ne sortent pas pendant le jour. Non, s'ils sortent, c'est à l'aube ou au crépuscule que vous les trouverez. Et nous avions chassé jusque vers les 11 heures, sans même voir une trace. C'était tard lorsque nous y sommes montés. La saison était ouverte depuis 2 semaines sur le côté nord de la route. Elle s'ouvrait après Noël sur le côté sud de la chaîne présidentielle. Ainsi, nous étions juste derrière le mont Washington. Nous chassions ce jour-là, et c'était vers les 11 heures. Nous prenons généralement avec nous du chocolat chaud. Il produit beaucoup d'énergie. Nous portions cela sur le dos avec un petit casse-croûte pour que si nous nous perdions ou que si nous étions pris quelque part, nous puissions retrouver notre chemin et avoir quelque chose à manger pour nous réchauffer si nous avions trop froid. Il faisait très froid et Burt s'assit là dans une petite clairière. Je le suivais parce que l'après-midi, nous nous séparions généralement et chassions dans des directions différentes. Et lorsqu'il s'assit, il alla vers sa chemise, comme ceci, et je pensais qu'il y allait pour prendre son chocolat chaud. Mais il en sortit son sifflet. Il siffla, et tout à coup une grande daine se leva, parfaitement vue. Maintenant, c'est assez étrange qu'il arrive cela, à 11 heures pendant le jour. Il me regarda de nouveau, puis il siffla de nouveau, et la daine sortit entièrement à ciel ouvert. C'est très inhabituel. Vous pouviez voir ses grands yeux bruns qui recherchaient tout autour, qui regardaient tout autour, et ses grandes oreilles. Burt ne gardait jamais de cartouche dans le magasin. Ainsi, il le tira en arrière, mit une cartouche, et le fusil fit un déclic. L'animal l'entendit, et le regarda tout autour de lui. Il se leva avec le fusil. Oh, la réticule de cette lunette traversait exactement son cœur. Je savais que dans quelques secondes, il lui ferait sauter le cœur, et je pensais, comment peut-il être si cruel? J'aurais souhaité, je lui dis, Burt, vous n'allez pas faire cela. Cet animal ne simulait rien. C'était une mère. Elle était née une mère. Il y avait quelque chose en elle qui la faisait aimer ce bébé. Avez-vous remarqué qu'une petite fille, lorsqu'elle commence à marcher, elle désire une poupée? Qu'est-ce? C'est une mère dès le commencement. C'est la nature, et la nature de cette daine était de rechercher ce bébé. Elle se tourna et regarda en direction du chasseur. Elle dressa ses grandes oreilles pendant un instant, mais elle savait que ce bébé était en difficulté. Elle commença à le chercher. Lorsque je le vis pointer son fusil, je pensais, « Oh, comment pouvez-vous faire cela, Burt? Tuer cette pauvre mère qui se tient là, après l'avoir trompée, comme si c'était son bébé qui l'appelait. Peut-être qu'il avait un fond quelque part, elle pensait qu'il était en difficulté. Elle le cherchait parce qu'elle criait. Elle ne simulait rien. C'était authentique. C'était un véritable amour maternel. » Et quand il fut sur le point de tirer, je tournai la tête. Je dis, Père Céleste, sois miséricordieux envers lui. Je l'aime. Comment peut-il être si cruel? Cette mère authentique est loyale. Et le voilà qui va lui faire sauter le cœur, après l'avoir trompé et faire sortir à découvert. Cette mère a un fond ici quelque part, et il agit comme s'il était ce fond qui appelle sa mère. Et j'attendis pour entendre l'arme faire feu. J'attendais environ une minute. Le coup ne partit jamais. Je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Je me tournais pour regarder, et le canon du fusil allait comme ceci. Il ne pouvait le tenir plus longtemps. Il me regarda, et les larmes se mirent à couler sur ses joues. Il jeta le fusil par terre et me saisit par la jambe. Il dit, « Billy, j'en ai assez. Conduisez-moi ce Jésus dont vous parlez, qui est si doux et plein d'amour. » Qu'était-ce? Il vit quelque chose de réel. Il vit quelque chose d'authentique. Il vit qu'elle ne cherchait pas à simuler. Elle n'agissait pas ainsi. Elle avait vraiment en elle ce qu'elle montrait. C'est ce que le monde attend de l'Église aujourd'hui. Quelque chose de réel. Oh, avec nous, n'aimeriez-vous pas être un réel et loyal chrétien dans votre cœur, comme cette dame était une mère? N'aimeriez-vous pas avoir cela? Le voudriez-vous? Levez la main et dites, j'aimerais être ainsi. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Les œuvres qu'il a faites, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes ou plus, a dit Jésus, parce que je m'en vais au Père. Puisse Dieu vous l'accorder, Jean de Phoenix, c'est ma prière. Que la fidélité de Christ soit dans votre cœur, y étant né par la nature du Saint-Esprit, et que cela vous donne faim de Dieu, et vous fasse rester aussi loyal pour Dieu et sa parole que l'était l'amour maternel de cette vieille dame pour son enfant ce jour-là. Prions. Y aurait-il par hasard, pendant que vous avez vos têtes inclinées, combien y a-t-il de pécheurs ici qui aimeraient qu'on se souvienne d'eux dans la prière, alors que nous terminons ce soir? Voulez-vous lever la main, premièrement, au balcon à ma droite? Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là en haut. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez être un véritable chrétien, ce dont je ne vous blâme pas. Vous avez vu beaucoup de personnes qui simulaient et agissaient comme cela, et cela vous rend malade. Mais vous voulez être véritable. Mon frère, mon pauvre ami perdu, il y a un Jésus-Christ réel, il y a un Père Céleste réel, un Saint-Esprit réel, des anges réels, et il y a de réels chrétiens. Je prie que Dieu fasse de chacun de vous au balcon à ma droite, vous qui avez levé la main, un chrétien comme cela. Le balcon qui est devant moi, voulez-vous lever la main et dire, priez pour moi, frère Branham, je veux être un chrétien, autant un chrétien que cette dame était une mère, et manifester pour mon Sauveur un amour véritable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, fils. Que Dieu vous bénisse. C'est très bien. Le balcon à ma gauche. Voulez-vous lever la main et dire, priez pour moi, frère Branham, que je sois le genre de chrétien, un chrétien tel que je serai fidèle à Christ, autant que cette mère l'était à l'appel de son bébé. Voulez-vous lever la main? Y en a-t-il encore au balcon à gauche? En dessous du balcon, ici, au parterre, à gauche, voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes ici en bas. C'est très bien. Là au fond, que Dieu vous bénisse, c'est bien. La partie centrale, ici, combien vous rêvez la main à dire, souvenez-vous de moi. Là au fond, même jusqu'au genre de couleur, je vous vois. Que Dieu vous bénisse, il vous fera cela. Maintenant, au-dessous du balcon, à droite, combien vous rêvez la main à dire, souvenez-vous de moi, frère Branham. Que Dieu vous bénisse, c'est bien. Que Dieu soit miséricordieux envers moi. Maintenant, derrière moi, que Dieu vous bénisse, c'est bien. Ah, je vous ai oublié ces deux derniers soirs. Puisse Dieu répandre sa miséricorde sur vous. Puisse-il vous accorder le désir de votre cœur. Maintenant, je veux que chacun de vous qui avez levé la main, vous priez avec moi. Et je veux que vous croyez Dieu de tout votre cœur. Il y a quelque chose qui vous a fait lever la main. C'était quelque chose de réel que vous vouliez voir. Je veux que vous vous engagiez envers Dieu ce soir, si vous le voyez venir dans cette ligne de prière et faire exactement les mêmes œuvres que lorsqu'il était ici sur la terre, à savoir connaître le secret des cœurs, guérir les malades et les affligés, faire marcher les boiteux, redonner la vue aux aveugles, ouvrir les oreilles des sourds, faire parler les muets. Nous ne savons pas ce qui va arriver ici. S'il fait cela, alors vous verrez une manifestation du Saint-Esprit, du véritable Saint-Esprit. Et ensuite, je désire que vous veniez aussitôt, que le service de guérison sera terminé, vous placer autour de l'autel, ici où l'on peut prier pour vous. Et ensuite, un prédicateur peut vous prendre dans son troupeau et la veiller sur vous et vous nourrir jusqu'à ce que vous soyez placé dans le corps de Christ.
Amen.
notre Père Céleste, il y avait peut-être 30 à 50 mains qui se sont levées ce soir, tout autour au balcon, sous les balcons et au centre du parterre. Beaucoup de personnes ont levé la main, des jeunes, des vieux et des personnes d'âge mûr qui voulaient tous être véritables. Ils veulent être de véritables chrétiens. Ils veulent avoir, non pas un substitut, mais quelque chose qui les fasse, ou quelque chose qui les fasse imiter quelqu'un, mais une véritable expérience, donnée par Dieu seul, pour faire d'eux de véritables et loyaux chrétiens. Je te prie, Père Céleste, d'accorder cette bénédiction à chacun. Bénis ceux qui sont rétrogrades ce soir, qui ne marchent plus dans la foi, qui se sont détournés pour marcher dans ce monde présent, l'aimant plus que Christ. Je te prie de les détourner ce soir, puissent-ils voir quelque chose se passer, à tel point réel ce soir, que cela attirera leur attention, comme le fit le buisson ardent pour Moïse, et puissent-ils revenir dans une douce communion avec toi et avec l'Église. Accorde le Père, et bénis toute l'Église, et puissent-ils être proches les uns des autres. Dans l'amour et la communion, toutes les Églises et le corps des croyants, jusqu'à ce que nous voyons le parfait Fils de Dieu formé au milieu de nous pour ramener le corps de Christ. Alors le corps de ceux qui dorment en lui seront changés et deviendront comme son propre corps glorieux, par lequel il peut soumettre toutes choses. Accorde-le, Père, je te le demande maintenant, de venir sur la scène. Comme nous l'avons prêché ce matin, le Dieu de l'histoire apparaît sur la scène. Le même Dieu, pour faire savoir aux gens ceci, ne craignez pas, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puisse la voix de Dieu résonner dans leur cœur ce soir. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le.
Amen.
Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen.
Amen.
Nous sommes dans une grande attente ce soir, attendant que la ligne de prière, je crois que Billy m'a dit qu'ils ont distribué 60 cartes de prière. Est-ce bien cela? C'est la troisième fois que nous distribuons des cartes de prière. Chaque soir, je vous ai demandé comment vous vouliez que la réunion se déroule, et vous avez demandé des cartes de prière ce soir, afin que l'on puisse imposer les mains à tout le groupe. C'est merveilleux. L'Écriture dit cela. Afin qu'ils ne soient pas mélangés, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire passer tout le monde qui est dans une arène. C'est une arène, mais maintenant c'est une église. Les frères se battront entre eux demain soir, mais ce soir, nous nous battons contre le diable.
Amen.
Oui, monsieur. Mais nous voulons faire de ce lieu l'église de Dieu.
Amen.
Qui a la carte de prière C, c'est comme pour Christ. C numéro 1. Voulez-vous lever la main? Quelqu'un avec la carte C numéro 1. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus et il sentit son infirmité lorsqu'elle le toucha. Il sentit sa foi et regardant vers la foule, il la repéra et lui dit que sa perte de sang s'était arrêtée. Combien savent que c'est l'Écriture? Combien savent que Jésus ne prétendait pas être un guérisseur et qu'il a dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire du Haut-Père et le fait pareillement. » Saint Jean 5, 19. Vous savez tous cela. Bon, combien ici croient que Jésus-Christ n'est pas mort, mais qu'il est vivant? Combien croient que la Bible dit dans Hébreux 13, 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement?
Amen.
Alors s'il est le même, il est le même dans ses principes, il est le même dans sa puissance. Combien savent qu'il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus? Bien sûr qu'il allait monter au ciel. Mais voici ce qu'il allait arriver. Il serait le sceptre et l'Église serait les serments. Combien savent cela? Combien savent que ce n'est pas le sceptre qui porte les fruits, mais que ce sont les branches? Les fruits sortent des branches. Alors si vous êtes les serments, c'est l'Église, les membres de l'Église, le corps. Bon, alors si le serment est dans le sceptre, le serment portera le fruit du sceptre. Est-ce vrai? Alors, c'est la vie de Christ dans l'Église portant les mêmes fruits que lui. Comment a-t-il fait connaître aux gens qu'il était le Messie? Les gens-ils attendaient-ils un Messie en ce temps-là? Non, monsieur. Ils étaient païens. Bon. Les Juifs attendaient-ils un Messie? Oui. Les Samaritains attendaient-ils un Messie? Oui. Comment s'est-il fait connaître à eux? De toute manière, il y a seulement trois races de gens. Cham, Sem et Japhet, selon la Bible, les fils de Noé, ceux qui forment les Juifs, les Gentils et les Samaritains. Croyez-vous cela? Combien savent que Pierre reçut les clés du royaume? Quand l'a-t-il ouvert aux Juifs? À la Pentecôte. Est-ce vrai? Quand l'a-t-il ouvert aux Samaritains? Quand Philippe alla leur prêcher et les baptisa, ils eurent un grand réveil et le Saint-Esprit tomba sur eux. Pierre avait les clés. Il alla là-bas, leur imposa les mains et leur reçut le Saint-Esprit. Est-ce vrai? Quand les Gentils le reçurent-ils? Dans la maison de Corneille le Romain. Comme Pierre prononce encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Est-ce vrai? Mais lorsque Jésus était ici, il se manifesta seulement aux Juifs et aux Samaritains, aux deux qui l'attendaient. Quand il fit cela, comment le fit-il? Leur fit-il savoir qu'il était le Messie? Moïse a dit que le Messie viendra, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Ainsi ce Messie doit être un homme, est-ce vrai? Né d'une vierge, et il montrerait le signe d'un prophète, d'un maître prophète. Est-ce vrai?
Amen.
Lorsqu'il dit à Pierre qui il était, il dit, ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. Il l'adora et sut que c'était le Messie. Quand Philippe alla et trouva Nathanaël sous l'arbre et qu'il le ramena devant Jésus, Jésus le regarda et lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Dites-moi quand vous êtes prêts. Voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Elle dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Quels yeux! Et qu'a-t-il dit? Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Comment l'a-t-il reconnu? Au signe. Tu es le roi d'Israël. Il l'est. Ensuite, lorsqu'il alla vers les Samaritains, il devait passer par là, les disciples allèrent acheter de la nourriture. Il s'assit sur le petit mur qui bordait le puits public qui était là. Une femme, nous savons que c'était une prostituée, sortit. Elle commença à puiser de l'eau, et Jésus la regardant lui dit, « Femme, donne-moi à boire. » Elle dit, « Ce n'est pas la coutume à cause de la ségrégation. Vous, les Juifs et nous, n'avons pas de relation les uns avec les autres. Ce n'est pas juste que toi, un Juif, me demandes ceci à moi, une Samaritaine. » Elle dit, « Mais si tu connaissais celui à qui tu parles, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. » Et la conversation continua jusqu'à ce que Jésus trouve où était son mal. Quelqu'un sait où était son mal? Elle vivait dans l'adultère. Et Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Elle dit, « Je n'ai pas de mari. » Il dit, « C'est vrai, car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. » Qu'a-t-elle dit? « Seigneur, je vois que tu es prophète. Maintenant écoutez, ce n'est pas tout. Nous savons que lorsque le Messie viendra, ce sera son signe. » Combien savent que l'Écriture dit cela? Nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous annoncera toutes choses. Mais qui es-tu? Il répondit, je le suis, moi qui te parle. Maintenant, quel était son message? Elle courut dans la ville et dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Maintenant, Dieu est infini. Croyez-vous cela? Il ne peut pas changer. Il ne laissa pas la génération de ces deux races de gens prendre fin sans avoir vu ce signe. Il a prophétisé que les Gentils le recevraient comme au temps de Sodome, avant que Sodome brûle. Ainsi, s'il leur donna ce signe et qu'il nous laisse continuer dans notre intellectualisme, alors il nous a privés de quelque chose. Il ne fera pas cela. Il est le même. Si c'était son idée, si c'était son... Quand Dieu fut appelé sur la scène, la façon dont il agit la première fois fait qu'il doit agir pour toujours ainsi. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a mal agi la première fois. Il a fait quelque chose de faux. Mais observez, lorsque Dieu agit, il agit chaque fois de la même manière. Si un pécheur l'invoque et qu'il sauve ce pécheur, lorsque le prochain pécheur l'invoque, il doit le sauver de même. Que le prochain, tous ceux qui l'invoquent. Si un homme l'invoque pour la guérison de son corps et que Dieu le guérisse, alors le suivant, qui l'invoque doivent être guéris sur la base de leur foi, comme le premier. Il montra aux Juifs le signe du Messie avant la fin de leur dispensation. De même, il montre aux Samaritains le signe du Messie avant la fin de leur dispensation. Mais pas une seule fois il ne l'a montré aux Gentils. Ils n'attendaient pas de Messie, mais maintenant oui. Voici ce même Messie qui a prophétisé qu'il le ferait, qu'il reviendrait parmi les gens. Pas moi, mais au travers de nous, l'Église, dans le monde entier. Il revient et montre la même chose qu'il fit alors, ici même. Nous devons croire cela. Maintenant, vous qui désirez voir quelque chose de réel, quelque chose d'authentique, puisse le Saint-Esprit vous le montrer ce soir. Combien ont dit qu'ils n'avaient pas de cœur de prière? Levez la main. Bien sûr que vous n'en avez pas, car les malades qui ont les cœurs de prière sont dans la ligne. Maintenant, priez une minute pendant que nous terminons avec la ligne. Que dites-vous? Bon, c'est en ordre. Une minute. J'essaie de m'occuper des gens qui sont là-bas, sans carte. Je continue à penser à cette montre. Je ne sais pas que nous allons nous rencontrer de nouveau. Restons tranquilles une minute. Restez tranquilles. Si vous êtes pressés, le diable commence alors à agir. Essayera d'en faire quelque chose de différent. Maintenant, ayons la foi et croyons. Croyons de tout notre cœur que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici, prêt à nous donner ce que nous désirons. Paul, sont-ils tous prêts? Maintenant, je désire que vous tous, qui êtes dans le bâtiment, où que vous soyez, que vous priez. Je veux vous poser une question avant que vous fassiez cela. Regardez ici, afin que vous puissiez connaître ma sincérité, cette Bible que j'aime et que je crois être la parole de Dieu, cet ange que vous voyez sur la photographie, eh bien, je n'ai pas besoin de vous le dire. Il est là, sur la photographie. Monsieur George G. Lacey, du FBI, empreinte digitale et documents, a prouvé que la lumière était là et qu'elle a frappé l'objectif. Ce n'est pas de la psychologie. Il a dit que l'œil mécanique de cet appareil de photo n'enregistrera jamais de la psychologie. Non, certainement pas. Ainsi que Dieu soit mon juge, je vois cette lumière. Pour une révélation, pour une vision, si je ne vous rencontre plus jamais avant d'être dans le pays de la gloire, et que je me tiendrai là-bas au jour du jugement de Christ, où nous dirons tous, je vous ai dit la vérité. Je sais que vous pensez que je n'ai pas d'éducation, je ne suis pas tellement un prédicateur, parce que je n'ai pas d'éducation, mais Dieu m'a simplement donné un don. C'est simplement de mettre William Branham hors du chemin, afin qu'il puisse prendre la carcasse et parler lui-même. Maintenant, priez. Je veux que vous soyez honnêtes. Et si Dieu désire agir ici ce soir, exactement comme il l'a fait lorsqu'il était ici dans la chair, agissant au travers de notre chair, accomplissant les mêmes signes, les mêmes miracles, alors je veux que vous fassiez ceci. Tenez fermement la croix jusqu'à ce que Dieu vous place dans la position où il désire que vous soyez dans le corps de Christ. Ô Dieu, accorde-le. C'est derrière vous. La dame qui est assise au bout de cette rangée-là. Vous voulez Dieu, n'est-ce pas? Si Dieu m'explique quel est votre mal, croirez-vous que je suis son serviteur? Vous le ferez? Vous avez une maladie de cœur. C'est vrai. Si c'est vrai, agitez la main. Maintenant, madame, avez-vous une carte de prière? Non, bien sûr que non. Bon. Croyez-vous que c'est vrai? Croyez-vous que c'est le même esprit qui a dit à la femme qu'elle avait Saint-Marie? Si vous croyez de tout votre cœur, vous devez être guéri. Voyez-vous? Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Et vous avez touché quelque chose. Et nous avons un souverain sacrificateur qui peut se pencher sur nos infirmités. Si le souverain sacrificateur peut se pencher sur nos infirmités, n'agirait-il pas comme il l'a fait autrefois? S'il est le même souverain sacrificateur, cela émeut la dame qui est assise à côté de vous. C'est vous qui avez attiré l'Esprit du Seigneur. Croyez-vous, madame, que Dieu sait ce qui ne va pas chez vous? Si je vous dis d'ici ce qui ne va pas chez vous, accepterez-vous vos guérisons? Cela vous aiderait-il? C'est une grosseur sur votre oreille que vous priez. C'est juste, n'est-ce pas? Avez-vous la foi? Croyez maintenant. Et par exemple, ici dans l'auditoire, cet homme qui est assis là, la tête dans les mains, qui est en train de prier, il a une maladie des glandes et de la nervosité. Si vous croyez, monsieur, cela vous quittera. Vous pouvez retourner à la maison guéri. Acceptez-vous vos guérisons? Croyez-vous de tout votre cœur? Bon, vous priez alors, c'est vrai. Jésus vous a guéri. cette dame qui est là-bas, juste derrière vous, croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre mal? Vos pieds peuvent-ils être guéris? Vous le croyez? Ils vont ennuyer pendant un certain temps. Croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes? Madame Hershey, c'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez retourner à la maison et être guéri si vous le croyez. Levez les mains et dites, je te loue de cela. Bon, ayez foi en Dieu. Croyez. Et par exemple, quelqu'un dans cette direction, certains parmi vous qui êtes ici, il y a un homme qui est assis là, qui prie. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Vous avez de l'arthrite. C'est sa femme qui est assise près de lui. Elle a aussi de l'arthrite. Je crois que vous manquez cela. Monsieur Reinhardt, croyez de tout votre cœur. Levez-vous et soyez guéris. Vous et Madame Reinhardt, Jésus-Christ vous guérit. Amen. Croyez-vous maintenant? Amen. Gloire! Oh Dieu! Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir cela? Ne croyez pas que je suis fou. Je ne le suis pas. Cette lumière, ne pouvez-vous pas voir qu'il y a une colonne de feu quelque part? Ne pouvez-vous pas voir que c'est le Dieu vivant qui se révèle? Cette femme indienne qui est assise là au fond, hypertension. Croyez, sœur, soyez guérie. Croyez-vous? Vous, à la robe rose, qui me regardez. Bon. Croyez-vous que l'hypertension vous a quitté? Bon. Agitez la main si vous croyez qu'elle est partie. Bon. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Cela émeut une autre jeune fille indienne qui est assise là au fond, de voir cela de tes yeux. Croyez-vous que Dieu va enlever le mal de dos que vous avez, sœur, qui est là-bas, avec la petite chose blanche? Croyez-vous qu'il va guérir votre dos? L'indienne qui est assise près d'elle a une maladie des poumons. Une autre à côté d'elle a aussi un mal de dos. Vous ne pouvez pas, voyez-vous? Dieu sait tout à votre sujet. Croyez-vous que Dieu va guérir chacun d'entre vous qui est assis là-bas sur la rangée du fond? Comprenez-vous l'anglais? Bon, alors croyez tout votre cœur, soyez guéri. Où est cette femme? Quelqu'un fait signe par ici. Cette dame qui est là. Regardez ici, madame. Croyez-vous que je suis? Est-elle dans la ligne? Que se passe-t-il? Elle ne peut pas se lever. Bon. Regardez ici. Si Dieu révèle ce qui ne va pas chez cette femme qui est ici, vous autres croirez-vous afin que nous puissions prier pour toutes les personnes? Croyez-vous de tout votre cœur maintenant? Combien croient que c'est réel? Combien croient que c'est tout ce qu'il y a de plus réel? Soyez bénis, c'est bien. Maintenant, gardez cet esprit sur vous, comme cela. Gardez cette onction. Vous aussi, monsieur. Eh bien, vous ne priez pas tellement pour vous-même. C'est un cas pour lequel vous priez, qui est plus conséquent que le vôtre. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Je ne vous connais pas, mais autant que je sache, je ne vous ai jamais vu de ma vie. Mais Dieu, lui, vous connaît. Si Dieu me révèle ce que c'est, il semble que votre esprit recule. Si Dieu peut me révéler ce que c'est, accepterez-vous, si vous recevez ce que vous avez demandé, le reste des gens se joindront-ils à elle? C'est pour quelqu'un d'autre qu'elle est ici. C'est pour une femme, beaucoup plus jeune qu'elle. Oh, c'est ta fille. La fille est couverte par l'ombre de la mort. Elle a le cancer. Elle a été opérée pour ce cancer. Et le cancer, ça a été sans succès. On n'a pas pu stopper son mal. Le cancer est dans les vaisseaux sanguins. Il y en a deux. Et vous êtes un peu estropié. La raison pour laquelle vous ne pouviez pas monter les marches, c'est qu'un jour, vous avez marché sur une épine ou quelque chose comme cela. Et je vous essayer de sortir de la rue, c'est vrai. Vous avez été dans mes réunions auparavant. On a une fois prié pour vous dans une de mes réunions. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous. Vous aviez de la peine à respirer, de l'asthme. Et le Seigneur vous en a guéri. C'est ainsi dit le Seigneur. Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous maintenant? Vraiment? Maintenant, vous savez que je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est sur cette bande là en bas. Dieu le sait, avec mes mains posées sur ma Bible, pour autant que je sache, je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Croyez-vous que Dieu puisse me dire qui vous êtes? Mademoiselle Shaker, vous pouvez retourner à la maison maintenant. Jésus-Christ vous accordera votre quête. Dites, loué soit le Seigneur. Ne le croyez-vous pas maintenant? Maintenant, madame, vous réalisez que je ne connais pas votre cas. Mais quoi que je dise ou quoi, cela ne vous fera pas plus de bien que si on priait simplement pour vous. Mais pensez-vous que vous demeurerez tel que vous êtes? Ou croyez-vous que Dieu peut vous guérir et que votre arthrite vous quittera et vous serez guéri? Vous le croyez? C'est tout ce que vous devez savoir. Croyez-le simplement de tout votre cœur. Voulez-vous venir? Maintenant, vous savez que je sais ce qui ne va pas chez vous. Je ne sais pas. Dieu... Ne le croyez-vous pas maintenant? Maintenant, madame, vous réalisez que je ne connais pas votre cas. Mais quoi que je dise ou quoi, cela ne vous fera pas plus de bien que si on priait simplement pour vous. Mais pensez-vous que vous demeurerez tel que vous êtes? Ou croyez-vous que Dieu peut vous guérir et que votre arthrite vous quittera et vous serez guéri? Vous le croyez? C'est tout ce que vous devez savoir. Croyez-le simplement de tout votre cœur. Voulez-vous venir? Maintenant, vous savez que je sais ce qui ne va pas chez vous. Je ne sais pas, Dieu le sait, mais je peux vous le dire. Croyez-vous que Dieu peut me révéler? Cela vous aiderait-il? Êtes-vous espagnol? Vous êtes espagnol. Cela aiderait-il les gens de langue espagnole si je vous disais quel est votre mal? Vous pensez que oui? Gens de langue espagnole, cela vous aiderait-il à croire? Ceci est votre sœur. Ma sœur aussi. Cela le ferait-il? Alors Dieu vous le donne. Vous pouvez retourner à la maison guérie. Croyez-vous cela? Bon. Vous pouvez continuer votre route et vous réjouir. Bonsoir. Bon. Croyez-vous que tous les blancs croiront si Dieu peut me dire quel est votre mal? Alors, votre nervosité vous quittera. Ce mal dont souffrent beaucoup de ceux qui sont là-bas, voyez-vous, elle vous quittera. Vous pouvez retourner à la maison guérie. Que Dieu vous bénisse maintenant. Avez-vous la foi? Croyez-vous de tout votre cœur? Oh, ce vieil état asthmatique. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Bon. Au nom de Jésus, du Seigneur Jésus, retournez à la maison et soyez guéris. Maintenant aux Indiens, voici votre sœur. Combien d'Indiens? Y a-t-il ici qui comprennent l'anglais? Levez la main, les Indiens. Bon, voici votre sœur, ma sœur aussi. Je ne l'ai jamais rencontrée de ma vie. Je ne sais rien d'elle. Si Dieu me dit qu'il ne va pas chez elle, croirez-vous que c'est le même esprit que celui qui a dit à la femme qu'il était son mal? Indien, le croirez-vous? Comprenez-vous bien l'anglais? Votre cœur sera guéri. Allez, amen. Croyez. Le mal est dans votre dos. Allez, croyez, soyez guéri. Ayez la foi, ne doutez pas. Vous avez de l'arthrite. Dans une de ses mains, vous avez de l'arthrite. Croyez de tout votre cœur. Allez, soyez guéris. De la nervosité. Allez, et soyez guéris. Ayez la foi. Croyez-vous de tout votre cœur? Bon. Disons, loué soit le Seigneur. Vous êtes terriblement travaillé au sujet de quelque chose. Vous avez peur que quelque chose soit arrivé, n'est-ce pas? Croyez-vous que le Seigneur Jésus peut vous guérir de votre affection rectale? Vous priez pour quelqu'un d'autre. Je viens de le voir apparaître devant moi. C'est votre frère. Votre frère n'est pas ici. Il est en Californie. Croyez-vous que Dieu puisse me dire qu'il est son mal? De l'asthme. Allez, croyez. Allez et croyez. Dieu peut-il guérir une maladie de cœur, le vôtre? Bon, allez et croyez. Disons, loué soit le Seigneur. Maintenant, combien d'entre vous veulent se joindre à moi de tout leur cœur et prier pendant que nous intercédons pour ces gens? Cela me rend si faible que vous devenez comme une ombre qui danse devant mes yeux. Prions. Maintenant, priez avec moi. Venez, sœurs. Père Céleste, au nom de Jésus, je te prie de guérir cette sœur. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, puisse notre frère être guéri, Seigneur. Au nom de Jésus, du Seigneur Jésus, Père Céleste, je te prie de guérir notre sœur.
God, I pray for the Lord, in the name of Jesus. God, I pray for a sister with this great church, and I lay hands upon her. In Jesus' name.
lay hands upon her and ask that the devil depart.
You understand what it means. In the name of Jesus Christ, God, teach you to be evil.
Come, sister, you believe now? In the name of Jesus Christ, may my sister be evil.
Amen.
In the name of Jesus Christ, may my brother be evil. In the name of Jesus Christ, may my sister be evil.
All right.
Vous avez peur de l'opération de cette tumeur, mais elle vous quittera si vous croyez. Le croyez-vous? Alors allez et soyez dans la joie. Dites merci Seigneur Jésus. Croyez-vous tous? Je fais cela simplement pour me reposer un peu. Oui, Dieu connaît chaque cœur. Jésus dit, lorsqu'une femme me toucha, de la vertu est sortie de moi. Est-ce vrai? Combien savent que c'est la force? Assurément. Cela vous aiderait-il si je vous disais quel est votre mal? Cela vous aiderait-il? Bon. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. Votre mère, elle est à la mort. Elle a le cancer, elle a une maladie de cœur. Elle est si faible qu'elle doit recevoir des piqûres. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous l'aimez, Dieu l'aime. Puissiez-vous la trouver comme vous souhaiteriez qu'elle soit, est ma prière. Le Dieu du ciel la guérit au nom de Jésus. Allez, croyez maintenant. Venez, ma sœur, au nom de Jésus-Christ, puisse-t-elle être guérie. Accorde-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je touche la main de cette femme et je demande sa guérison. Ne soyez pas inquiète au sujet de vos mains, sœurs. Ne soyez pas inquiète. Allez et croyez. Ce sera en ordre. Croyez-vous que Dieu vous guérira? Un cancer. Croyez-vous que Dieu vous guérira de ce cancer? Alors, Père Céleste, je te prie de la guérir, afin qu'elle puisse être de nouveau en bonne santé. Et je chasse ce démon au nom de Jésus-Christ. Amen. Croyez-vous qu'il va vous guérir, qu'il va guérir votre estomac, faire que vous puissiez marcher, être de nouveau bien? Ô Dieu, je te prie de l'accorder au nom de Jésus.
Heavenly Father, I pray for our sister and pray that you'll make her well in Jesus' name. Amen. God bless you, little boy. I pray, Father, that you'll heal and make her well and so that she can go away and bless her boy today. Heavenly Father, I pray for my brother and ask that you'll heal him and Jesus' name. Amen. Father God, I pray that you'll fix him a furnace. In the name of Jesus Christ, may the Holy Spirit heal her and make her well. Amen. You believe that? In the name of Jesus Christ, may you be healed and well. Amen. You believe that? In the name of Jesus Christ, may my sister be healed. Amen. In the name of Jesus Christ, may my sister be healed. Amen.
Croyez-vous qu'il peut vous guérir? Vous avez une mauvaise ouïe. Vous n'entendez pas très bien. Vous avez eu un accident il y a longtemps. Et votre tête, votre poitrine ont été blessées. C'est vrai. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir et faire que vos oreilles entendent bien de nouveau? Bon, vous le croyez. Prions. Inclinez vos têtes une minute. Au nom de Jésus-Christ, je chasse ce démon. Sors de lui. Depuis quand étiez-vous ainsi? Depuis quand? 1944. Pouvez-vous maintenant m'entendre des deux oreilles? M'entendez-vous? M'entendez-vous? Maintenant, vous pouvez lever la tête. Regardez ici. M'entendez-vous? M'entendez-vous? Vous êtes guéri. Vous avez quelque chose que vous avez essayé de surmonter il y a longtemps. Une habitude. Allez, et abandonnez-les ce soir. Les cigarettes. Avec nos têtes baissées, juste un moment, si vous le voulez bien, je me demande maintenant s'il en est qui voudrait venir ici autour de l'autel et dire « Je crois au Dieu que j'ai vu le véritable Saint-Esprit agir au milieu des gens. » Voudriez-vous le faire? Pendant que nous baissons la tête et chantons de nouveau, chacun s'il vous plaît, si vous le voulez, baissez la tête et prions et chantons. Frère Borders, conduisez les chants, car je deviens roué. Venez autour de l'autel et tenez-vous là pour la prière. Voulez-vous le faire, vous qui avez levé la main et qui voulez rencontrer le Dieu qui connaît les secrets de votre cœur? C'est cela, madame, c'est ainsi. Inclinons nos têtes maintenant pendant que nous chantons.